commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Good morning Tour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Tours. Il est 7h16, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Je suis Angina Richard et c'est un plaisir de vous accompagner en ce vendredi matin 11 octobre. Alors au programme de l'info, du sport, des moments de vie et encore plein d'autres sujets traités par les élèves de première et deuxième année. Ce matin, nous commencerons par le flash info de Victoire Renard de Winter et de Lou Attard. Nous retrouverons la chronique de Théo Leur sur les ouragans qui traversent les États-Unis ainsi que son potentiel lien avec les élections. Lucas, lui, nous amènera chez des apiculteurs. Pour nous présenter l'actualité sportive, on pourra compter sur Mathis Maudet. On continuera cette émission avec un texte de Baptiste Villermé qui nous transportera à travers un voyage en train. On inaugurera la première chronique de Colin Debrognac-Cohen sur la tempête Kirk. Nous finirons notre émission également par une chronique, celle de Jules Bourbotte sur le film Joker. Et derrière la vitre à la technique, Gabriel Ziard, accompagné de Lou Attard et de Victoire Renard de Winter, qui tout de suite nous présente le flash info de la journée. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h17.
Le budget de 2025 a été présenté hier soir par Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre a dévoilé la feuille de route du budget du gouvernement au Conseil des ministres. Mais comment trouver les 60 milliards d'euros calculés par le gouvernement français ? Priorité au redressement des comptes publics, en taillant dans certaines dépenses et en augmentant les taxes des Français, dont la TVA et l'impôt sur le revenu. Mais pour faire face à l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu sera réévalué. Le budget ministériel est notamment en baisse pour le social et la santé, mais en hausse pour la défense et l'écologie. L'ensemble de ce plan pour 2025 sera examiné par l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. De l'autre côté de l'Atlantique, de fortes précipitations ont ravagé la côte ouest de la Floride. L'ouragan Milton a fait au moins 10 morts selon les autorités américaines. De catégorie 3 sur une échelle de 5, l'ouragan s'est déplacé vers l'océan, mais les tornades et les plus fortes pluies continuent à faire des dégâts sur la péninsule. 2,6 millions de foyers en Floride sont encore privés d'électricité ce matin. Donc après Londres, Paris, Volodymyr Zelensky a rendu visite à Emmanuel Macron hier. Le président ukrainien réclame plus de soutien de la France face à l'invasion de la Russie. Avant l'hiver, nous avons besoin de votre soutien, appuie-t-il. Emmanuel Macron a assuré continuer l'aide de la France conformément à ses engagements. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine prévoit d'augmenter ses impôts pour combler le budget de la défense et de la sécurité. Le président ukrainien poursuit sa mini-tournée et ses alliés européens vers Rome, puis Paris. Puis Berlin, pardon. Couvre-feu et interdiction de manifester. La Martinique est fortement perturbée depuis les émeutes durant la nuit de mercredi à jeudi. Magasins et barricades en feu. Au total, 26 gendarmes et policiers ont été blessés. Depuis septembre, les Martiniquais se rassemblent pour protester contre la vie chère. En moyenne, les prix des produits alimentaires sont 40% plus chers qu'en métropole. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens exige un alignement des prix sur l'hexagone. Certains prix Nobel de l'année ont commencé à tomber cette semaine. Et en physique, le prix a été attribué à l'Américain John Hopfield et au Britanno-Canadien Geoffrey Hinton pour leurs travaux sur l'apprentissage automatique utilisé dans le développement de l'intelligence artificielle. Cela permet aux machines d'apprendre, je dis bien entre guillemets d'apprendre, car les machines ne sont pas vivantes. Donc apprendre à partir de données, soit améliorer leurs réponses sans y être explicitement programmées. Encore de l'intelligence artificielle pour le prix Nobel de chimie dévoilé mercredi. Le Britannique Demi Hassabis et l'Américain John Jumper ont développé un logiciel AlphaFold qui a révolutionné la vie des biochimistes. Le logiciel prédit la structure des protéines à partir de leurs séquences en acides aminés. Et l'Américain David Baker est également récompensé car il avait travaillé sur ce même sujet sans l'intelligence artificielle.
C'est le flash info de Victoire Renard de Winter du vendredi 11 octobre. Maintenant direction outre-Atlantique, à bord de Good Morning Tour, J-25 avant le grand jour de l'élection présidentielle américaine. Taylor, tu nous parles des ouragans qui traversent la Floride. De quoi peut-être influencer les votes dans la dernière ligne droite avant le scrutin.
Et oui, Angelina, après l'ouragan Helene il y a deux semaines, cette semaine aux États-Unis, ce sont les images des conséquences de l'ouragan Milton qui a frappé la Floride ces derniers jours, qui font le tour des chaînes d'information. Le comté de Hillsborough est au centre de l'attention. Les équipes du shérif de ce comté ont partagé les images du sauvetage d'un jeune homme de 14 ans. À moitié dans l'eau, il ne flottait que grâce à un morceau de clôture. Après avoir réussi à attirer l'attention des sauveteurs, il a pu être récupéré sain et sauf. Autres images fortes, celles des pensionnaires d'un centre pour personnes handicapées évacués par les pompiers et policiers locaux. Une fois hors de danger, ils ont pris un bus scolaire pour être accueillis dans un foyer où ils ont reçu l'aide nécessaire en ce moment de crise. Ces images témoignent de l'ampleur des dégâts. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré, je cite, « La tempête fut considérable, mais heureusement, le scénario du pire ne s'est pas produit. » Fin de citation. Hier matin, plus de 2 millions de foyers en Floride restaient privés d'électricité et surtout le bilan actuel fait état de 12 morts.
Et quelle est la réponse de l'État fédéral ?
Eh bien, pas assez forte, hein, selon l'ancien président et candidat à la Maison-Blanche Donald Trump, rejoint par de nombreux républicains. Il essaye en réalité d'utiliser la gestion de la crise comme un argument de campagne. De leur côté, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris sont sur le pont. La FEMA, l'agence fédérale qui assure l'arrivée de secours pendant les catastrophes naturelles, a bien sûr été réquisitionnée. Elle peut compter sur un budget de 11 milliards de dollars pour aider les Américains touchés. Trop peu, encore une fois, pour certains républicains. Suffisant pour Kamala Harris, interrogée par CNN. Pour rappel, l'agence avait dépensé 9 milliards de dollars après l'ouragan Helene d'il y a deux semaines. Mais au-delà de l'ouragan lui-même, c'est la récupération politique de la crise qui fait débat. Hier, Joe Biden a averti que le gouvernement fédéral poursuivrait et condamnerait les entreprises ou les citoyens qui voudraient profiter de la situation et de la détresse actuelle en Floride. Une critique que l'on pourrait étendre à la politique. Interrogé par un journaliste sur la position et les critiques de Donald Trump, l'actuel président s'est même laissé aller à cette phrase, je cite, « Fais quelque chose de ta vie, mon gars, aide ces gens ».
Donc tout cela dans la dernière ligne droite avant le jour de l'élection, dans trois semaines maintenant.
En effet, si proche du scrutin, toutes les excuses sont bonnes pour décrédibiliser son adversaire, même se servir de la détresse de certains Américains dans un état clé comme la Floride pour essayer de l'emporter plus facilement le 5 novembre prochain. En tout cas, l'exercice de récupération politique est plus facile que celui d'un débat constructif. Pourtant, Kamala Harris a accepté de participer à un débat public sur la chaîne CNN le 23 octobre en Pennsylvanie. Une main tendu alors que l'ancien président Donald Trump avait catégoriquement refusé un nouveau débat. Il a d'ailleurs confirmé hier sur son réseau Truth Social, je cite, « Il n'y aura pas de match retour. Kamala a clairement déclaré qu'elle ne ferait rien de différent de Joe Biden. Il n'y a donc pas lieu de débattre. » Fin de citation. L'ancien président estime également qu'il est déjà tard dans le processus de vote puisque le vote a déjà commencé. En effet, aux États-Unis, il est possible de voter par la poste avant le jour J. Toujours dans l'humilité et la politesse, il a également déclaré, je cite, « J'ai gagné les deux derniers débats, l'un contre Joe l'escroc, l'autre contre Kamala la menteuse. » Fin de citation, toujours un grand poète, ce Donald Trump. Jen O'Malley Dillon, la directrice de campagne de Kamala Harris, a répondu dans un communiqué publié dans la foulée, je cite, « Le refus de Donald Trump de rejoindre la vice-présidente Harris sur la scène d'un débat est un mauvais service rendu au peuple américain. Les Américains méritent de voir les candidats côte à côte, une fois de plus avant de voter, afin d'avoir un dernier regard sur leur vision très différente du pays », a-t-elle ajouté. À un peu plus de 20 jours donc de la fin de la campagne, le paysage politique américain se déchire toujours davantage. Il faut cependant rester attentif, une élection présidentielle a déjà reposé sur la Floride, un état pivot, celle de 2000 entre Al Gore et George W. Bush. La victoire de Bush s'était alors jouée à quelques milliers de voix près, recomptée 2 à 3 fois après demande de la Cour suprême. Et donc après ce traumatisme de 2 ouragans en Floride, cet état doit être encore plus scruté que jamais.
Merci Théo de nous éclairer un peu plus tous les vendredis matin sur cette élection qui arrive à grands pas. Je vous propose maintenant une pause musicale avec le titre « J'écris » de Ben Mazoui.
the cut loose.
C'était Footloose de Kenny Loggins, musique de la bande originale du film éponyme. Il est 7h29 et vous écoutez la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus Tours. Nous retrouvons Mathis Maudet qui nous présente les dernières actualités sportives.
Bonjour Angelina et bonjour à toutes et à tous.
Alors que faut-il retenir de l'actualité sportive de ce vendredi 11 octobre ?
On commence avec du tennis. Dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux hier, Rafael Nadal a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière après la phase finale de la Coupe Davis le mois prochain. L'Espagnol de 38 ans est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son sport. Et pour cause, au cours de ses 20 ans de carrière, Rafa a remporté 22 titres du Grand Chelem, dont 14 rien qu'à Roland-Garros, sans jamais y perdre en finale. À quelques heures d'intervalle, nous avons également appris, dans une interview accordée à l'équipe, que le Français Richard Gasquet stopperait sa carrière sur la terre battue du tournoi parisien en 2025. Dans cet entretien, le Français raconte notamment les moments vécus avec l'Espagnol au cours de sa carrière.
On se dirige maintenant vers la pelouse de Budapest où l'équipe de France de football affrontait Israël hier soir en Ligue des Nations.
Les Bleus l'ont emporté 4 buts à 1 grâce à des réalisations d'Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Matteo Guendouzi et Bradley Barcola. Grâce à leur victoire, les hommes de Didier Deschamps reviennent à un point de l'Italie qui a concédé le match nul de partout contre la Belgique. Justement, les Français affronteront ces Diables Rouges lundi prochain. Ils tenteront d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée sans leur capitaine Kylian Mbappé qui est resté avec son club du Real Madrid pendant cette trêve internationale.
Retour en France avec une information révélée par l'équipe.
Le Paris Football Club, actuellement leader de la Ligue 2, va être racheté par la famille Arnaud et Red Bull. Cette transaction devrait être officialisée prochainement. Pierre Ferracci, actuel président et actionnaire majoritaire du club, souhaite le céder entièrement en 2027. La famille Arnaud, dont la fortune est estimée à 190 milliards d'euros, deviendra alors actionnaire majoritaire du club. Bien que l'investissement soit effectué par la famille à titre personnel, un lien avec le groupe LVMH qu'il dirige pourrait se dessiner sous la forme d'un sponsoring. Ce rachat va sans doute marquer un tournant significatif dans la hiérarchie du football français.
Triste nouvelle pour le monde de l'athlétisme.
Et oui, on a appris que le coureur kényan Kipyegon Bett, qui avait remporté la médaille de bronze aux 800 mètres du championnat du monde 2017 à Londres, est décédé ce dimanche à l'âge de 26 ans, victime d'une insuffisance rénale et hépatique. Champion du monde des moins de 20 ans en 2016 à Bydgoszcz en Pologne, Bett était un talent prometteur du demi-fond. Il avait été suspendu pour dopage en 2018 à la suite d'un test positif à l'EPO. On conclut ce journal avec du cyclisme. Dimanche dernier, il ne fallait pas louper la 118e édition de Paris-Tours et l'arrivée située avenue de Gramont. Après une course difficile marquée par le mauvais temps et les chemins de vignes boueux, c'est Christophe Laporte qui a remporté la fameuse classique des feuilles mortes. Le français de la Visma Lease Bike, échappé dans les derniers kilomètres de la course, a battu au sprint le tchèque Matthias Vacek. Le belge Jasper Philipsen, lui, s'est emparé de la 3e place du podium en dominant le groupe des poursuivants. Ce flashport est maintenant terminé.
Et malheureusement, pas de résultat pour le PJC FC, puisque le match d'hier a été annulé en cause du mauvais temps. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5. Il est 7h32. On écoute tout de suite Holy Ghost d'O'Malley. D'écouter Rhythm of the Night de Corona. Il est 7h36 sur le 99.5 FM et c'est l'heure du deuxième flash info du jour. Lou Attard, c'est à toi. Trois quarts de la population des vertébrés sauvages a disparu en 50 ans. C'est la conclusion alarmante du dernier rapport de l'ONG WWF à quelques jours de l'ouverture de la COP16 en Colombie. En cause, l'activité humaine qui impacte directement l'équilibre des écosystèmes. Ce déclin, calculé par la Société zoologique de Londres, s'avère plus marqué dans l'hémisphère sud du globe. L'Amérique latine et les Caraïbes connaissent une perte d'abondance de 95% contre 35% en Europe et en Asie centrale. L'autrice sud-coréenne Ahn Kahn reçoit le prix Nobel de littérature. Le comité suédois a récompensé son
son œuvre qui affronte les traumatismes de l'histoire et expose la fragilité de la vie humaine. Née en 1970, Anne Kahn a débuté l'écriture à 23 ans avec la publication de poèmes dans une revue littéraire. Son 10e roman, La Végétarienne, reste son œuvre la plus connue. Faire voler en éclats les règles semble être la morale de cette fable, publiée en 2007 et adaptée au cinéma en 2009. Ce choix s'inscrit dans un tournant assumé de l'Académie Nobel de littérature, récompensée des œuvres non occidentales qui portent sur le tourment de l'exil et l'anticolonialisme. Lundi, c'était le prix Nobel de médecine qui a été décerné. Les Américains Victor Ambrose et Gary Rufkin pour leur découverte du micro-ARN, ces molécules permettent de réguler l'expression génétique. La SNCF, condamnée à 400 000 euros d'amende dans le procès du déraillement du TGV Est, est reconnue coupable d'homicide et blessure involontaire. C'était le 14 novembre 2015, près de Strasbourg. L'accident était passé inaperçu malgré la mort de 11 personnes et les 42 blessés. Lors d'une session d'essai sur la ligne entre Paris et Strasbourg, un train avait déraillé dans la région du Bas-Rhin. À cause d'un freinage trop tardif, le TGV avait percuté le parapet d'un pont à près de 265 km/h, soit 100 km/h au-dessus de la vitesse prévue à cet endroit. Le tribunal avait dénoncé un aveuglement collectif de l'équipe sur place. La prison jusqu'au procès pour P. Diddy, jugé pour trafic sexuel et extorsion. Le rappeur américain sera entendu à la barre le 5 mai 2025. Il est visé par des accusations de viol et d'agression sexuelle par plus de 100 personnes, hommes, femmes et mineurs au moment des faits, des plaintes qui remontent au début des années 90. Les accusations de son ex-compagne Cassie ont ouvert la voie au flot de témoignages à l'encontre du producteur de musique, dans le viseur aussi, des freak-off, des soirées d'orgies sexuelles où il aurait soumis chimiquement ses victimes.
Merci Lou pour ce flash info, il est 7h39, vous êtes toujours dans Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Ça vous dit un voyage sur les rails ? Baptiste Villermé nous amène avec lui en voyage.
Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage en train. Je ne parle pas de ceux qui durent quelques minutes, mais de ceux qui te font traverser la France. D'est en ouest ou du nord au sud, ceux qui te font traverser les régions et les départements. Un vrai voyage, ça commence toujours par un lever bien avant l'aurore. 5h du matin ce matin-là pour moi. Pour aller jusqu'à la gare, il faut traverser la ville et ainsi rencontrer les petites mains de la nuit. Avant 6h du matin, la ville est déjà toute réveillée. Les agents d'entretien s'affairent dans les halls d'immeubles. Les restaurateurs mettent en place leurs terrasses, les éboueurs et les agents de la ville pouponnent les rues et la police réveille les sans-abri pour qu'ils quittent l'espace public. Une fois arrivé à la gare, une fois le quai trouvé, la satisfaction est toujours là, être à l'heure et pouvoir entamer le voyage.
Mesdames, messieurs, notre TGV va partir. Nous vous invitons les personnes accompagnant les voyageurs à bien vouloir descendre. Attention à la fermeture des portes, attention au départ.
Chacun a ses expériences en train, des meilleures aux plus mauvaises. Des histoires d'amour, des disputes, des crises de nerfs, des projets réalisés ou avortés. Les voyages en train, c'est aussi de la mixité sociale, sauf en première classe. Le train offre la possibilité de se retrouver, pendant quelques heures, aux côtés d'une personne que l'on n'aurait jamais rencontrée. Étudiants, banquiers, journalistes, chômeurs, professeurs, tout le monde se croise. D'une vraie conversation à un simple sourire, chaque interaction est puissante et peut rester dans les mémoires. Qui que nous soyons, quelles que soient nos différences, nous sommes tous dépendants du conducteur pour arriver ou atteindre notre destination. Certains en font même des chansons, comme Grand Corps Malade en 2006 avec son célèbre morceau « Les voyages en train ». Même si on comprend très bien que ce n'est qu'une façon détournée de parler d'amour. Tu calcules pas, derrière la fenêtre, le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Un appel micro dans la gare vient de me sortir de l'écriture de cette chronique.
Le TER numéro 7570 au départ de Valence est retardé de 20 minutes. Motif, réutilisation d'un train.
C'est ça aussi les voyages en train. Jamais la certitude d'arriver à bon port et encore moins à l'heure. Le retard vient de passer à 30 minutes, génial. Quelques minutes plus tard, enfin dans le train, ce n'est pas trop tôt. Un sentiment commun chez tous les passagers, l'énervement. Et en plus, tout le monde est frigorifié. Dehors, il pleut pour changer. Mais finalement, on est bien au fond des wagons avec leur chaleur et leur siège confortable. Pas de chevreuil sur les voies, le reste du voyage se déroule sans encombre. Les montagnes se dessinent enfin, on commence à percevoir les contreforts du Vercors. Le train ralentit, les voyageurs sortent du royaume des rêves un à un avant de se précipiter sur leurs valises. Nous sommes arrivés, terminus, tout le monde descend.
Merci Baptiste pour ce partage. Il est 7h42 sur Radio Campus et c'est l'heure d'écouter le titre Totally Spice de Oudi.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk down the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. Pieces of my broken heart. And I've spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expecting to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to crush me with the fire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive.
D'écouter le titre I Will Survive de Gloria Gaynor. Et ce matin, Colin va nous parler de la tempête Kirk qui a touché la France cette semaine.
Et oui, vous l'avez sûrement vu passer, la tempête Kirk a frappé l'Hexagone cette semaine. Un ouragan soudain qui a causé de nombreux dégâts matériels et fait un mort ainsi qu'une personne en état d'urgence absolue dans le sud de la France. Revenons un peu en arrière. La semaine dernière, Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, alertait sur la formation d'un ouragan au milieu de l'océan Atlantique, entre les Antilles et l'Afrique. Baptisée Kirk, la dépression est classée ouragan majeur, soit au niveau 3 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'échelle de classification de l'intensité des cyclones tropicaux. En l'espace de quelques jours, les rafales ont perdu de leur intensité, faisant passer Kirk d'ouragan à tempête. Une dépression qui a atteint les côtes françaises ce mercredi.
Une tempête qui a fait des dégâts donc.
Oui Angelina, en effet. Selon les derniers relevés de Météo France, certaines villes ont connu plus de 100 mm d'eau de précipitation en une journée, soit l'équivalent d'un mois de pluie. Parmi les records enregistrés, Pays Ricava dans les Alpes-Maritimes, où 137 mm d'eau sont tombés en 24 heures. Au total, depuis mercredi, 35 départements ont été placés en vigilance orange pour pluie, inondation, vent ou crue. À côté de cela, deux départements ont été classés en vigilance rouge et le sont encore aujourd'hui, la Seine-et-Marne depuis mercredi et l'Eure-et-Loire depuis hier après-midi. Actuellement, la situation semble s'être calmée dans la grande majorité de l'Hexagone, avec uniquement 6 départements toujours en alerte. En plus des fortes pluies, des rafales de vent allant à plus de 110 km/h ont entraîné beaucoup de dégâts. Jeudi matin, le fournisseur d'énergie Enedis annonçait que 65 000 foyers étaient privés d'électricité, notamment dans le sud et l'est du pays. Le nombre de clients lésés est descendu à 48 000 à la mi-journée. Mais Kirk n'a pas épargné la région parisienne. Plusieurs lignes de RER et d'intercité ont été bloquées et des stations de métro comme celle de Porte de Clichy ont été totalement inondées. Certains monuments historiques parisiens comme l'Assemblée nationale ou le Musée des armées des Invalides ont même été victimes des crues. En Seine-et-Marne, l'un des deux départements placés en vigilance rouge, les transports scolaires ont été suspendus pour un arrêté préfectoral en raison d'un risque de crue forte à exceptionnel. La préfecture a également décidé de fermer une section de l'autoroute A5 une grande partie de la nuit. Plusieurs affluents de la Marne sont notamment sortis de leur lit, recouvrant routes et champs. À Pomeuse, la rivière Le Grand Morin a dépassé les 3,59 m, un niveau jamais atteint. Une crue si exceptionnelle que certains habitants ont dû être évacués. Même chose à Coulommiers, où le centre-ville s'est retrouvé paralysé par la montée des eaux. De nombreux commerces et habitations ont été inondés. Au total, la tempête a nécessité 3700 interventions des pompiers, selon le Premier ministre Michel Barnier, qui a assuré que l'État était là et serait là dans une gestion post-crise. Une position partagée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui affirme que l'épisode n'est pas terminé et qu'après le temps de l'urgence viendra le temps de la réparation. Pour l'heure, le dernier bulletin de Météo France annonçait un affaiblissement et une évacuation des intempéries associées à la dépression Kirk.
Et pour rappel, en plus des deux départements en vigilance rouge, 6 sont toujours en orange aujourd'hui. Il s'agit de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Sarthe, de l'Orne, de l'Aisne et de Loir-et-Cher. Des tempêtes et des pluies non sans conséquence pour les apiculteurs qui ont une très mauvaise récolte. Les abeilles de Touraine ne sortent pas indemnes du mauvais temps qui a frappé la région au printemps 2024. On se souvient des importantes inondations qui ont frappé la région Centre-Val-de-Loire en avril dernier. Et pour cause, le printemps 2024 a été le quatrième plus arrosé depuis 1959. Luc Hago est parti à la rencontre des apiculteurs.
C'est les stockages, c'est ici où on stocke toute notre production. J'ai connu mon frigo beaucoup plus plein. Pour ne pas que ces abeilles meurent de faim, Loïc Capier, apiculteur à Vigné, a été obligé de les nourrir. C'est la première année où nous, on a été obligés, à cette période-là, de les nourrir. Donc on a rempli nos camions avec les cuves de sirop, et puis on est allé faire tous nos ruchers, on a été nourrir nos abeilles. Et croyez-moi que si jamais on ne l'avait pas fait, on aurait eu beaucoup de monde au tapis, quoi.
Un coût supplémentaire difficilement compensé par la faible récolte de cette année.
C'est un coût de trésorerie, pas loin de 650 euros de sirop, quoi, de dépenser, alors qu'on n'a pas de miel qui rentre.
Mais la pluie n'est pas la seule responsable. Sébastien Moreau, maître de conférence à l'université de Tours, travaille sur les abeilles sauvages.
Et la pluie de cette année, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y a la température, il y a la présence de métaux lourds dans l'environnement, de pesticides. Et quand on a un paramètre parmi les 40 anormalement excédentaire par rapport à des années précédentes, et bien là, ça provoque un effondrement massif.
Avec les difficultés saisonnières, certains miels se feront plus rares dans nos rayons. C'est notamment le cas du miel d'acacia.
On espère alors un meilleur temps pour ces petites bêtes. Et pour finir cette émission, on vous amène au cinéma.
Oui, vous êtes sans doute pas passé à côté depuis une semaine et demie, hein, qu'on soit cinéphile, indifférent, amateur de super-héros sur pellicule ou dans les cases d'un comics, la Joker Mania, comme on l'avait désigné en 2019, est de retour dans les salles de cinéma. Si le premier opus de Todd Phillips, sobrement intitulé Joker, avait séduit par son traitement nouveau du méchant le plus célèbre de chez DC Comics, ce nouvel épisode peine à séduire. D'abord un peu de contexte. Je lui disais donc, en 2019 sortait Joker, l'aventure solitaire de l'antagoniste principal de l'univers de Batman. Entre caricature de notre société à la sauce 80s, critiquant notamment notre rapport au buzz et à la célébrité, introspection dans la psyché balaisante du personnage d'Arthur Fleck, le sobriquet du Joker pour le film,
mais aussi et surtout étendard de sensibilisation aux troubles psychologiques, psychiques et mentaux. Ce pourquoi ce Joker avait séduit, c'est ce bouillonnement de violence et de désir d'anarchie qu'il avait fait couler dans nos veines lorsqu'Arthur Fleck devient le Joker et que finalement la rue s'embrase à la fin du premier film. Alors, la suite directe du premier, nommée Joker Folie à 2, est-elle si éloignée de la proposition initiale de 2019 ? Oui et non. Tout d'abord, elle s'en éloigne dans le succès rencontré au box-office. Hein, 3 fois moins rémunérateur que le premier Joker au week-end de sa sortie, cette Folie à 2 a de quoi décevoir quelques chemises blanches à la Warner Bros. Productions. Pour autant, ce qui a déstabilisé le public, c'est la construction du film. J'avais ménagé la surprise jusqu'ici, mais on pourrait sans problème ranger cette suite dans le genre de la comédie musicale. C'est pas que le genre soit particulièrement en mauvaise forme en ce moment, hein, en atteste Emilia Pérez, le dernier film de Jacques Audiard, primé à Cannes et très bien reçu par le public. C'est avant tout une question de décalage et d'a priori. Les attentes n'étaient pas là où Joker Folie à 2 s'aventure. Donc peut-être, que le problème principal du film se situe quelque part entre le siège et l'écran. À méditer. Attention, tout ce qui suit ne relève que de mes goûts, mais dans tous les cas, ils sont meilleurs que les vôtres. Donc, je suis quand même allé voir le film pour vous en parler et j'ai adoré. Eh oui. Une image, un travail de la lumière, du grain et du son encore une fois irréprochable à mon goût, le film ne souffre que de ses ficelles scénaristiques un peu trop visibles. Encore une fois, peut-on en toute honnêteté le reprocher avec virulence à un genre qui n'en fait pas son argument premier. Côté musique, le film pourrait paraître pauvre dans la mise en scène de ses numéros chantés, au moins au début, avant que les personnages ne se dévoilent et laissent éclater leurs émotions. Le duo Lady Gaga-Joaquin Phoenix fonctionne très bien, la chanson devenant au fil de l'histoire un vrai biais de communication entre les deux personnages, une bulle protectrice pour deux âmes en peine que le monde ne comprend pas. Même si ce Joker Folie à deux relève plutôt de la folie chacun dans son coin, tant le duo n'est pas si souvent rassemblé à l'écran. Mais je suis pas payé pour trouver les titres de films, je suis pas payé du tout d'ailleurs. Pour en venir au sujet, je dirais que les déçus n'ont pas bien compris le sens des deux films. Et auquel cas, pour plus d'action, je ne saurais que recommander le Dark Knight de Nolan avec le regretté Heath Ledger, ou le Batman de Tim Burton avec le grand Jack Nicholson dans le rôle du Joker, aka le plus grand méchant de la pop culture. Ça c'est moi qui le dis et je suis absolument fermé au débat. Les apparitions du Joker au cinéma ne manquent pas et je suis sûr que chacun pourra y trouver son compte. Vous en voulez encore ? Le personnage existe depuis 1940. Je vous laisse faire le calcul. Encore une fois, je ne suis pas payé pour ça, mais ça fait pas mal d'histoires encore inconnues du grand public. Pour vraiment, cette fois, revenir au film, j'ai été contaminé par la folie enivrante du Joker, mais surtout par l'humanité et la tendresse bouleversante d'Arthur Fleck, rescapé d'une enfance traumatisante. Parce qu'avant d'être un film sur l'antagoniste de Batman, au passage totalement oublié malgré quelques délicieuses et pointues références ci et là, ce Joker porte encore plus haut cet étendard de sensibilisation aux troubles psychiques. L'occasion, aussi pour moi, de vous dire en conclusion de cette chronique, et au lendemain de la journée de la santé mentale, que les blessures de l'âme sont aussi importantes que celles du corps. Vous pouvez vous faire aider. Écoutez-vous, mais ne vous isolez pas, et si vous êtes témoin d'un proche ou d'un inconnu en détresse, parfois une oreille attentive et une épaule sur laquelle se reposer peuvent faire toute la différence.
Merci Jules pour cette chronique. Il est 7h56 sur Radio Campus Tours et c'est déjà l'heure de vous remercier d'avoir écouté cette 4e émission de Good Morning Tours. J'aimerais comme d'habitude saluer chaleureusement toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Merci à Baptiste, Théo, Jules, Lucas, Victoire, Colin, Mathis et Lou pour leur chronique et autres flash info au sport. Un remerciement spécial à Gabriel qui a assuré la technique. Il est temps de se quitter. N'hésitez pas à aller consulter le Twitter de l'émission pour ne pas rater un replay ou vous pouvez aller directement sur le site de Radio Campus Tours. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, 7h15, sur le 99.5 pour une nouvelle matinale des étudiants de l'école publique du journalisme de Tours. Très belle journée à toutes et à tous.